Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 39. Voici Stéphane Carpentier, Alice Morel, Brice Dugénie, Greg Caranoni et Cyprien Simon.
Ouh à 19h16.
Il entend son nom, il fait wouh!
La bonne nouvelle, c'est que Brice Dugénie est arrivé et qu'en plus, il se trouve juste à côté d'un ballon de foot en studio. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour
ça
nous.
Ça me fait bizarre.
C'est dangereux pour nous.
Ça fait très peur.
On est ravis de vous accompagner. Vous réagissez, vous commentez le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Vous êtes chez vous, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti avec Cyprien. Voici le sommaire.
Montjoie, Saint-Denis, quand la vraie vie rattrape les visiteurs. Dans Défait le Monde, vous saurez tout sur l'origine des mots prononcés par le gifleur du président sur la mouvance royaliste également. Dans une semaine, boule au ventre, c'est le début du bac général avec une première cette année, le grand oral. Parents, futurs bacheliers ou même si vous n'aimez pas trop parler en public, séance de coaching avec un expert en la matière, on allumera la lumière sur l'importance de savoir parler en société. Le loser, le grand perdant de la semaine et ce soir, c'est Laurent qui s'y colle et ironie de la vie, vous Laurent, le fan du Real Madrid, l'adorateur de Karim Benzema. Face à l'actualité, bah vous avez dû vous faire une raison.
Vous êtes dur, là c'est clair, je ne peux dire qu'une seule chose, Karim à la poisse.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a disparu de l'actualité et ce soir exceptionnellement. Eh ben c'est pas Brice, non, on a fait appel à Alice Moreno du service police-justice de RTL pour revenir sur une mystérieuse affaire qui avait alimenté la chronique l'été dernier.
C'est l'affaire des chevaux mutilés. Figurez-vous Cyprien que moins on en parle, moins il y en a.
Comme tous les vendredis, vos indispensables, trois infos pour briller au dîner. Vos initiatives dans Marche ou Rêve et dans Défait le Monde ce soir, événement. Le grand tirage au sort pour le maillot dédicacé de l'équipe de France. Oh. Vous pouvez d'ailleurs continuer d'envoyer foot au 74 900.
75 centimes par SMS.
Un ballon de l'euro offert par baldesport.com a gagné également. On défait le monde, saison 2, épisode 39.
Monsieur Cadeau, c'est aussi Monsieur Argent.
On défait le monde, je refais, saison 2, épisode 39.
On n'a rien sans rien.
Défait le monde dans RTL Soir.
Soyez tous les bienvenus, 19h18, on traîne pas Cyprien, on y va pour le surf de la semaine.
Et cette semaine, dernière ligne droite, dites donc, avant le premier tour des régionales et des départementales, wouh ! Les candidats donnent tout ce qu'ils peuvent, jettent toute leur force dans la bataille, ouais, perdu pour perdu, hein. Ils y vont comme Laurent Saint-Martin, candidat LREM à Paris, qui s'est donc dit, tiens, je vais faire un meeting sauvage au canal Saint-Martin. Laurent Saint-Martin, Canal Saint-Martin, vous l'avez. Mégaphone en main, le gars est intenable, complètement survolté.
Faites du bruit pour Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa en guest star, qui fait visiblement rêver les militants. Hein.
Qui ne saute pas n'est pas
Schiappa. Une véritable démonstration de force d'En Marche qui se croit définitivement bah, dans un stade de foot avec celui-là. Hein. Oui, quand le canal se met à chanter, c'est tout Paris qui va s'enflammer. Faut vite rouvrir les stades quand même, parce que là, c'est en train de devenir n'importe quoi. Et face à cette folie en marche, et ben chez les Républicains, Valérie Pécresse a sorti son arme secrète, oui, avec ce tweet mystérieux cette semaine, cet extrait vidéo de Gims, le rappeur.
Bonjour à tous, c'est Gims. Juste pour vous dire que je suis fier, fier, fier.
Et là, ça coupe. Suspense. Mais qu'essaie-t-il de nous dire ? Une vidéo relayée par Valérie Pécresse qui nous donne rendez-vous pour la suite à 18h pour plus d'infos. Non. Pécresse, Gims.
Ça fait comme jamais.
Gims, quoi. Avec Valoche, Valérie Pécresse. Pas possible. Et pourtant...
C'est Gims, je suis fier de collaborer avec Valérie Pécresse. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go.
Aïe, 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 oui. Maintenant, même les rappeurs sont de droite. Bon, après, depuis son duo avec Vianney, on se doutait bien que tout était possible. En tout cas, le ralliement de Gims à Pécresse, eh ben, ça a visiblement mis en colère Audrey Pulvar, candidate de la gauche.
J'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet.
Ça vous a pas surpris?
Sincèrement. Non, je connais beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas ce rappeur. C'est son choix. S'il a décidé d'apporter son soutien à Valérie Pécresse en contrepartie d'une grosse subvention à une de ses actions, c'est son choix.
Elle est en train de traiter Gims de vendu, les régionales à Paris qui se transforment en clash game de rap. C'est chaud quand même. Heureusement qu'on a l'euro qui va nous calmer un petit peu. Hein. D'ailleurs, avant d'avoir droit à un mois de conférence de presse lénifiante et pleine de langue de bois de nos amis du foot, juste un peu de rugby, là, c'est plus frais, avec l'entraîneur de Bordeaux, Christophe Furios. Vous l'aimez bien, lui. Hein. Vous allez l'entendre, après une défaite, c'est pas déchant. Hein.
C'est pas bon. Hein. J'ai passé ma semaine à gueuler. On a fait un très bon entraînement jeudi, mais mardi, c'était dégueulasse. Hein. Et on est nul, on joue pas bien. Tactiquement, c'est catastrophique. Hein. Je déteste mon équipe quand elle est comme ça.
Eh ouais, un peu de franc-parler, quoi. Tellement au bout du rouleau qu'il va faire un petit jeu avec la presse.
On m'a échangé les rôles un peu. C'est moi qui vais écrire l'article, tu vas voir. Ah, qu'est-ce que tu penses de cette seconde mi-temps, toi?
C'est brouillon, quoi.
Et puis t'es que tu feras aussi bien que toi. Hein.
Pas épaté par l'analyse, Christophe Furios. C'est marrant, je sens que ça va pas être la même avec le foot. Enfin, mon coup de cœur de la semaine avec un oiseau qui parle. Oui, un étourneau à la diction incroyablement parfaite. Alors autant le perroquet qui parle, bon classique, on connaît. Mais alors l'étourneau.
Tout le monde en a.
Ah, mais non, mais écoutez, ça c'est sa maîtresse.
Who's my precious Jabby Bird?
Et alors attention, maintenant voilà l'oiseau. Avec son bec, il fait ça. Incroyable. Et alors, encore plus fort. Bien, oui. À force de lui faire regarder la guerre des étoiles, les tourneaux chantent désormais comme R2-D2. C'est le gentil robot. Écoutez les tourneaux chanter, je vous promets,
c'est dingue. Avec son bec.
Ouais, avec son bec. Et ouais, c'est sans trucage. Écoutez. Et ça me fascine tellement que rien que pour ça, je vous dis vivement la semaine prochaine.
Ah ouais, sûr. Ce qui est fascinant, c'est qu'il le fasse avec son bec.
Bah oui, avec son bec, c'est un oiseau, mais bon, ouais, je précise. Ouais,
surfeur de la semaine, Cyprien Sini, 19h22.
On défait le monde.
On en vient à la grosse info et cette semaine, vous avez évidemment choisi de revenir sur l'affaire de la gifle présidentielle.
Oui, et sur le cri poussé par celui qu'il convient désormais d'appeler le gifleur. Alors, il est passé en comparution immédiate, hein, je vous rappelle, 4 mois ferme, 14 mois avec sursis. Pendant son procès, il a expliqué avoir, je cite, des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra-droite. Et donc, avant la baffe, il a crié « Mon joie Saint-Denis ». Brice, vous êtes penché sur ce slogan et ce qu'il représente. Parce que, alors évidemment, pour nous, le cri, c'est ça. Hein.
Bonsoir Saint-Denis.
Bon alors, Brice, en fait, c'est pas Jean Reno, quoi.
Non, c'est pas Jean Reno. Montjoie Saint-Denis, c'est un slogan, un cri de ralliement utilisé par les chevaliers, notamment à l'époque des rois capétiens. On est là à peu près au Xe siècle. Le cri Montjoie Saint-Denis, il fait référence à la monarchie, mais plus que ça, en fait, à la défense, la promotion de la monarchie, ceux qui sont prêts à se battre pour elle, et tout ce qu'elle représente, comme le détaille l'historien français spécialiste des mouvements d'extrême droite, Nicolas Lebourg.
Montjoie Saint-Denis, c'est tout simplement un cri des chevaliers au Moyen-Âge, des chevaliers français. Montjoie Saint-Denis, c'est un cri guerrier. Donc non seulement c'est une revendication de fierté nationaliste, mais c'est vous placer dans la position du combat, qui est liée aux traditions et qui est liée également à la tradition catholique. C'est tout simplement une fierté, une revendication de la fierté nationaliste française.
Alors on trouve pour la première fois trace de ce cri à la bataille de Bouvines. C'est en 1214, donc bataille entre le roi de France et les troupes flamandes et allemandes. Montjoie, ça renvoie au drapeau, l'oriflamme derrière laquelle se rassemblent les chevaliers au service du roi de France. Et Saint-Denis, c'est le saint patron, vous savez, des rois de France. Saint-Denis, c'est là, vous le savez, Cyprien,
la
que
cathédrale,
sont la basilique Saint-Denis, oh là là. Presque basilique. Ouais. C'est là
que sont enterrés. J'ai une maîtrise d'histoire.
Ouais, bah, qui a été ratée manifestement. C'est là, donc, dans la basilique Saint-Denis, que se trouvent les rois de France dans la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne.
Alors, ok, Brice. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qui utilise cette expression?
Oui, parce que après la Révolution, évidemment, l'expression disparaît. En fait, elle devient à ce moment-là une sorte de symbole des nostalgiques de l'ancien régime, ceux qui verraient bien un roi revenir à la tête de l'État. Alors, en 2018, par exemple, en France, le député La France Insoumise, Éric Coquerel, avait été entarté, accusé de profanation de cette basilique Saint-Denis parce qu'il y avait eu une occupation du bâtiment par les sans-papiers et la scène avait été filmée.
Montjoie Saint-Denis !
Vous entendez Montjoie Saint-Denis, en fait, l'action avait été menée par des militants de l'Action Française. C'est un mouvement royaliste qui aujourd'hui est en déclin et qui se rassemble derrière cette phrase, comme l'explique Nicolas Lebourg.
Le courant monarchiste, il a perdu de sa superbe. L'Action Française, qui a été fondée en 1905, a été très importante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, l'Action Française, c'est un mouvement qui s'écroule, puis qui ressurgit tous les 10 ans avec un peu d'activisme, de violence fait par des étudiants. L'espace radical de droite en France, il est estimé actuellement à 3000 personnes, dont 1000 violents et potentiellement violents. La plupart d'entre eux ne sont très très loin de la culture monarchiste, sont très loin de la culture Action Française. C'est vraiment groupusculaire.
Groupusculaire, un mouvement qui n'a donc aujourd'hui plus que quelques membres actifs sur notre territoire.
Oui, donc ça représente quand même pas grand monde.
Oui, absolument. D'autant que ces personnes, comme l'homme qui a giflé le président Emmanuel Macron, utilisent parfois cette expression sans forcément en connaître tous les contours. Le slogan peut fédérer des personnes de profils extrêmement divers.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des bricolages. Y compris lorsqu'il y a des sections d'Action Française qui se développent. On va y trouver des gens qui viennent de milieux néo-nazis, ça n'a rien à voir avec l'Action Française. Hein. Des gens qui sont des identitaires, ça n'a aucun rapport non plus. Des gens qui viennent du milieu skinhead, ça n'a encore aucun rapport, et tout ça s'agrège. Mais de toute façon, on est sur des questions d'agrégation. Les gens n'ont plus une doctrine fixe, ferme, avec très peu de programmes, de projets pour l'utopie, pour ce qu'on pourrait faire après.
Finalement, s'il est bien un slogan monarchiste historiquement, aujourd'hui, il rassemble plutôt ceux qui ont pour point commun une sorte de mécontentement, voire de détestation de l'État sous la forme actuelle, sans forcément, on le comprend, avoir de propositions à offrir ou d'idéal clairement défini.
Grosse info de ce vendredi soir, décryptage complet avec Brice Dugénie, il est 19h26.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour briller au dîner et une leçon de coaching pour réussir votre bac. Et il y aura le jeu, évidemment. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Il y en a trois, comme d'habitude. Et la première ce soir, c'est avec Laurent, on parle ballon rond.
Oui, vous le savez, l'Euro démarre ce soir avec le match Turquie.
Ah bon,
c'est pas vrai.
C'est
ça l'info, c'est ça la pauvreté. Mais si vous voulez briller au dîner pendant la rencontre, posez cette question. Pourquoi le football se joue à 11? Qui a eu cette idée folle? Pourquoi pas 12, 13, 15, 8. Là, vous restez sans voix, Brice.
Ouais.
La légende raconte, c'est très classe quand on démarre comme ça au dîner, que cette règle remonte...
Ça veut dire que c'est pas une info, surtout, mais allez-y.
Si, cette règle remonterait aux origines, au berceau du foot, l'Angleterre. En clair, les premiers matchs opposaient les équipes des dortoirs universitaires. Dortoirs qui étaient composés de 10 élèves et un surveillant cantonné au poste de gardien de but.
Ah oui, ils voulaient pas faire jouer le surveillant avec eux, donc ils l'ont mis au but.
On est le plus grand gardien.
C'est comme avec Brice quand on a joué au foot. On
exactement ça le week-end. Les 11 joueurs sur le terrain ont été décidés pour de bon à la fin du 19e siècle. On est parti sur un principe que le nombre était suffisant pour couvrir un terrain de football. Et certains racontent que c'est un héritage du cricket très populaire en Grande-Bretagne qui se joue à 11 contre 11.
Ah, c'est à 11 le cricket aussi.
Double info.
Ouais, double info. Ouais.
Très, 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 fort. Une, très très fort, Laurent Tessier. Ouais. 19h31.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert nous éclaire sur un sujet d'actualité. Et ce soir, Cyprien, on a une pensée pour ceux qui préparent le bac.
Oui, et puis pour leurs parents, et aussi pour tous ceux qui sont terrorisés par les prises de parole en public. Car cette année, c'est une révolution, les futurs bacheliers vont devoir passer un grand oral, 20 minutes face à un jury. Forcément, ça fait un peu peur.
Oui, et pour aider celles et ceux qui nous écoutent, on s'est posé trois questions. Comment bien appréhender une telle épreuve? Comment savoir lutter contre le stress? Et surtout, pourquoi une telle épreuve?
Et pour allumer la lumière sur le sujet, on a contacté Bertrand Perrier. Il est avocat, professeur d'art oratoire à Sciences Po et à HEC.
Et il vient de publier le petit manuel pour grand oral aux éditions Magnard.
Merci pour lui. Donc d'abord, la base. Quelques conseils pour réussir un grand oral.
Alors sur la forme, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est d'abord la posture. Quand on vient devant un jury, il faut se tenir bien droit, avec les épaules bien horizontales, avec l'image d'un fil qui vous retient le haut du crâne. Il y a le regard, il faut bien les regarder alternativement, les deux. Il se passe rien au plafond, il se passe rien sur vos chaussures. Il faut aussi, et c'est très important, faire varier sa voix. On le sait bien, on est ici à la radio, et donc la question des inflexions de la voix, du débit, c'est très important. On a bien choisi son sujet, on a bien fait ses recherches, et puis on l'a testé. On l'a testé y compris sur des gens qui ne connaissent rien au sujet. C'est eux qui vont vous poser les bonnes questions, c'est ceux qui vont vous faire comprendre qu'un argument ne vaut pas. Donc testez-le sur vos amis, vos parents, vos professeurs. Et puis la dernière chose qui me paraît vraiment essentielle, c'est d'avoir une bonne structuration de son propos, avoir bien construit son plan de discours.
Bon, ça, c'est le plan idéal, mais forcément, ça se passe jamais vraiment comme prévu.
Eh ben non, évidemment.
Surtout sur la structuration,
je pense. Donc, on pense notamment au stress aussi. Et aussi, pour le stress, il y a des astuces.
Alors, la première chose, c'est une question de respiration. Quand on arrive, il faut d'abord prendre une grande respiration. Il ne s'agit pas d'arriver essoufflé. Puis, en amont, on peut aussi s'imaginer en train de le faire. Et puis, si ça se passe mal, il y a quand même le parachute ventral. C'est de dire que ça se passe mal. Personne n'est un surhomme. On a 16, 17 ans, 18 ans. On n'est pas un tribun nécessairement. Dites au jury, écoutez, c'est pas facile. Je me suis perdu. Et le jury n'est pas malveillant et il vous aidera. Ce ne sont que des mots. Il ne va rien vous arriver si vous bafouillez. En France, on a une angoisse de performance. On se dit que si c'est pas absolument parfait, ça n'existe pas. Il faut rendre cela banal et quotidien. La parole, c'est d'abord un entraînement, c'est une confiance en soi. Comme un pianiste qui fait ses gammes, à la fin, on y arrive.
D'ailleurs, le but de cette nouvelle épreuve du bac, c'est un peu d'obliger tout le monde à progresser dans l'art oratoire.
Exactement, parce que dans nos sociétés, le langage n'a jamais été aussi important à écouter Bertrand Perrier.
On vit évidemment dans une société du clash, dans une société des réseaux sociaux, de l'écriture, plus que dans une société du débat. En fait, on a l'impression que quand on parle pour répondre et pas pour comprendre. On parle pas pour converser ou pour dialoguer. Alors que dans le vivre ensemble, ce qui fait qu'on fait société, c'est d'abord notre capacité à débattre, à écouter les autres. Pour éviter la violence et l'actualité la plus récente en est l'illustration, bah, il faut restaurer des lieux où on peut débattre. Et si on ne se bat pas, eh bien, pardon, j'ai dit mille fois que débattre, c'était le contraire de se battre. Eh bien, je crois que c'est plus que jamais vrai.
Passionnant, hein.
Ouais, ouais.
Toutes ces astuces là, ouais, c'est bien. Orateur du tennis, il s'appelle Jean-Michel Rascol à Roland-Garros.
Parachute ventrale, parachute ventrale. Jean-Michel, si vous êtes tendu.
Djokovic, Nadal, c'est bien parti pour l'Espagnol, hein, Jean-Michel. Hein.
Celui qui est tendu, c'est Djokovic parce qu'il a eu deux balles de break dans le premier jeu. Il vient d'en perdre trois d'affilée. 3-0 pour Nadal, 30 partout entre les deux joueurs du grand, du très grand tennis.
19h34, Jean-Michel Rascol à Roland-Garros.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller au dîner de la soirée, on ira en Allemagne. Et puis vous découvrirez le loser de la semaine, Karim Benzema. Ça va faire mal à Laurent, ça. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde sur RTL.
Je sais pas si vous regardez RTL.fr, mais pendant les pubs, tout le monde en studio joue avec ce ballon qu'on pourrait gagner dans quelques secondes.
On l'appelle Monsieur Cadeau, on l'appelle aussi parfois la balance.
De grands enfants. Hein. Le ballon, on va le gagner, on va vous l'offrir surtout d'ici quelques instants. Puis le maillot aussi. Hein.
Bah, le maillot dédicacé par les joueurs de l'équipe de France.
On ne joue pas avec le maillot,
précise. Non, on ne touche pas le maillot. C'est sacré.
Hein. Il perdrait de sa valeur.
Évidemment.
Après, qui a eu l'idée de nous mettre des ballons dans un studio aussi?
C'est Georges. Grande idée du soir, 19h37.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La deuxième avec Brice ce soir est l'Allemagne.
Oui, en Allemagne, pour inciter les gens à aller se faire vacciner, ils ont lancé une grande campagne qui s'appelle Armel Or, qui en allemand veut dire on relève les manches, donc évidemment pour aller se faire vacciner. Et donc ils ont fait appel à une personnalité très populaire en Allemagne, devinez.
Oliver Kahn ?
Pas du tout.
C'est l'ancien gardien du Bayern de Munich. Ouais. Je sais pas, un Allemand célèbre, Angela Merkel.
Pas du tout. Petit indice sonore.
Ermel, oh, I, David Hasselhoff, I found freedom.
Je sais pas si vous avez entendu I, David Hasselhoff. David Hasselhoff, acteur américain mythique, oui, de K2000 et d'Alerte à Malibu.
Oh là, c'est has-been.
Pourquoi David Hasselhoff? Il est hyper populaire en Allemagne, notamment depuis les années 80. Ses chansons avaient fait des cartons, notamment une que je résiste pas au plaisir de vous la faire réécouter. Ah là, vous la connaissez, Looking for Freedom, qui veut dire quête de liberté, et il y fait référence dans son annonce pour aller se faire vacciner. Il explique que le vaccin lui a permis à lui de retrouver sa liberté.
Fallait qu'il le place. Hein.
C'est génial.
Je recommande à tous les auditeurs de taper Looking for Freedom. Il y a David Hasselhoff qui chante ça sur le mur de Berlin,
ouais,
avec une veste en cuir.
Une veste qui clignote.
Qui clignote.
Ouais. Absolument formidable.
19h39.
RTL.
Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et là, c'est terrible pour Laurent. Lui, l'Espagnol. Lui, le madridista. Puisque celui qui a vraiment pas eu de bol cette semaine, Laurent, il a fallu vous faire une raison, bah c'est Karim Benzema.
C'est vrai qu'en tant que président du fan club non officiel de Benzema sur la rédaction, j'ai sorti mon masque de madridista.
C'est vrai.
Je tiens ma carte d'abonné pour ne pas trembler. Et nous sommes passés par toutes les émotions. L'annonce de son retour en bleu pour l'Euro par Didier Deschamps le 18 mai.
Karim Benzema.
Oh, le retour de l'enfant prodige, 5 ans et 7 mois d'attente pour tous les fans de Karim Benzema. Depuis le 8 octobre 2015, il nous manquait quelque chose. Le jour tant attendu arrive, mercredi 2 juin, France-Pays de Galles, Karim est titulaire, 23e minute de jeu, il obtient un pénalty, c'est lui qui va tirer.
Ah, Karim Benzema.
Karim Benzema.
Elle est belle l'histoire. Oh, non,
Eric, c'est magnifique.
Bien sûr qu'elle est belle l'histoire, évidemment.
Bah oui, elle est belle l'histoire, c'est ce que je dis à madame à la maison. Il revient, il va marquer en première mi-temps, c'est bon le football. C'était écrit d'avance.
Il s'élance, il frappe, il est arrêté. Il est arrêté sur son côté droit. Parfait arrêt.
Oh. Ah bah oui, mon camarade de Ferro, vous disiez quoi quelques secondes avant?
Ah, Karim Benzema. Elle est belle l'histoire.
Résultat, aucun but pour Karim lors de ce premier match. Bon, heureusement, il est confiant pour la suite.
Je me sens super bien. J'ai eu pas mal d'occasions. Bah, la prochaine fois, j'essaierai de marquer ce petit but.
Ouais, Karim se sent super bien. Il a comme tous les supporters. J'y crois encore plus. La prochaine, c'est la bonne. Mardi soir, France-Bulgarie. 37e minute. Grosse frayeur pour tous les fans.
Benzema.
Benzema, attention, on va voir.
Non, Benzema.
Il va sortir.
Ouais,
il va
sortir. Petit coup de froid sur le haut du genou. Changement, il demande le changement, Karim Benzema. Il a fait signe au banc. Il a demandé le changement.
Karim Benzema qui sort donc.
Et là, je m'assois sur mon canapé et je jette ma serviette.
Non ! C'est pas possible !
Olivier Giroud, le phénix grenoblois, comme l'appellent ses amis, remplace Karim Benzema, l'homme mis sur le banc lors du retour de l'attaquant madrilène. Bon, pas de risque de concurrence, hein. Je rappelle ce que disait Karim il y a un an.
Te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place ?
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting.
Tranquille, même si Olivier Giroud est confiant.
C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Esaïe 30, 15.
Non, mais le match est terminé. Je pars me coucher à la 70e minute. Karim rigole avec Kylian Mbappé en tribune. Tout va bien. Mais quelques minutes plus tard, le kart Giroud s'emballe.
Entendu, Giroud, le but ouais, mais... Le but. Le but d'Olivier Giroud. On est à Giroud. Le doublé. Mais un servi Paris Saint-Ménilère.
Aucun but pour Karim Benzema lors des deux matchs. Deux buts pour Olivier Giroud. La F1 malheureusement est restée au stand. Allez, restons sport.
Mbappé et Karim Benzema en tribune qui sont en train de sourire. Mais bon, Karim Benzema, je pense qu'il sourit un peu jaune quand même.
Allez, Karim est un battant. Ressortons cette phrase au début de la préparation.
Il est derrière moi, je regarde devant moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire et à accomplir.
Et un but contre l'Allemagne mardi soir pour le premier match, il deviendra le winner.
Mais oui, Karim, on est avec toi.
Mais oui, à fond.
À fond.
Mais à fond.
Évidemment.
À fond. Comme la F1.
Allez, 19h42. Un peu la poisse.
Les amis, voici le jeu.
Ah. Et mesdames, messieurs. J'adore cette chanson. Il est là, il est présent.
C'est l'heure de Monsieur Cano.
Oui.
Ouh. On mettrait pas l'hymne de l'Euro ?
Ah non.
Bah si.
C'est YouTube ça.
Exactement. Il n'y a pas de surprise, hein, on vous le dit depuis le début de l'émission, vous allez remporter ce soir le maillot officiel de l'équipe de France dédicacé par les Bleus. Et toute la journée, vous avez aussi pu remporter le ballon officiel de l'Euro grâce à RTL et le site balledesport.com. Pour ça, vous envoyez foot, il vous reste moins de 10 minutes, au 74 975 centimes par SMS. Et puis l'un d'entre vous gagnera donc le ballon et le maillot dédicacé par les Bleus ce soir.
Le fameux maillot qui est devant nous, tirage au sort imminent, le ballon de l'Euro offert par balledesport.com. On sera en direct avec l'heureux élu en toute fin d'émission. Oh,
formidable.
C'est pas YouTube, c'est Bono et The Edge. Il n'y a pas tout le gros.
Ah, il manque Larry Mullen, le batteur.
Bah oui, non, mais attention, c'est des marques déposées, faut pas qu'on ait de problème, quoi.
19h43.
On défait le monde sur RTL.
Le billet retour d'Alice Moreno.
Et oui, elle a droit à un jingle. Alice Moreno a droit à un jingle, Brice. Non, mais ça laisse Brice.
Je n'avais pas fait attention pour tout vous dire. J'étais concentré, je regardais Cyprien. J'avais pas... Donc elle a droit à un jingle et pas moi. Ok, voilà, pas de problème. Okay.
Alors, mais non, parce qu'on a la chance de la voir quand même.
Bien
Service
sûr,
police du site de RTL, Alice Moreno, c'est un honneur. Car c'est elle qui a suivi cet étonnant dossier dont on ne nous parle plus du tout. Souvenez-vous, c'était il y a le feuilleton de l'été dernier.
Un mystère et une inquiétude qui continuent à grimper un peu partout. Des chevaux sont mutilés ou tués.
Des individus blessent, tuent ou mutilent volontairement des chevaux.
Plusieurs nouveaux cas de chevaux mutilés ont encore été recensés.
Les chevaux mutilés partout en France. Plus d'une dizaine d'enquêtes ont été ouvertes. Et en fait, on n'en a plus du tout parlé. Alice, vous avez suivi ce dossier, on en est où ?
Eh ben, cette affaire, elle demeure toujours très mystérieuse. Il y a bien eu des arrestations l'an dernier, mais finalement, toutes les gardes à vue ont été levées. Le portrait robot d'un homme pris en flagrant délit d'agression d'équidé a même été dressé à la fin de l'été 2020, au pic de cette série.
Ah, on s'en souvient. Hein.
Voilà, il a été... Donc, ce portrait robot a été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux et deux hommes ont été interpellés. Les suspects ont fourni des alibis en béton et ont été mis hors de cause. Les gendarmes ont reçu pas moins de 524 signalements en 2020. On parle d'animaux blessés ou retrouvés morts au pré, chevaux, poneys, ânes et quelques vaches. Certains étaient mutilés, oreilles, parties génitales lacérées. Une jument a même été retrouvée vidée de son sang. Les enquêteurs n'excluent pas la piste zoophile, mais faute d'avoir mis la main sur un suspect, on ne peut parler que de piste à ce stade.
Et les enquêteurs, ils ont déployé des moyens hyper importants et il n'y a rien.
Absolument. Des patrouilles de gendarmes dédiées ont fait des rondes à proximité des prés. J'ai intégré une de leurs patrouilles le temps d'un reportage. En plus d'une attention accrue aux abords des domaines équestres, ils ont prodigué des conseils aux propriétaires d'animaux pour installer de la vidéosurveillance, par exemple. Ils ont aussi tenté d'apaiser leurs angoisses. Des propriétaires terrifiés à l'idée que quelqu'un s'en prenne à leurs chevaux faisaient le pied de grue dans les prés et se relayaient parfois pour des rondes nocturnes. Certains étaient armés, ça devenait franchement dangereux. Quant aux investigations sur les animaux victimes, les corps des chevaux ont été analysés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Toute la vidéosurveillance disponible était visionnée, sans résultat pour l'instant.
Mais non, mais c'est fou.
Toujours rien.
Et alors, il y a une explication quand même à donner.
Oui, elle est assez simple. Elle est assez simple, cette explication, et sans doute un peu décevante pour tous ceux qui imaginaient déjà l'œuvre d'adepte d'une secte satanique, d'un rituel.
Ah, on était à fond dedans. Hein.
Alors, on trouve pas de responsable, car bien souvent, il n'y en a pas. Je m'explique. 80% des signalements effectués auprès de la gendarmerie ne sont pas imputés à l'homme. L'immense majorité des chevaux se sont en fait blessés seuls au pré, sont morts de causes naturelles, et des animaux sauvages, des charognards, viennent ensuite s'attaquer aux parties molles du cheval, comprenez les oreilles, les yeux, les parties génitales. Reste quand même quelques cas, je le rappelle, qui sont le fait d'agressions d'hommes.
Et alors, si on en a autant parlé comme ça, c'est quoi? C'est l'émotion qui a été suscitée par ces mutilations?
C'est ça, on commence à parler des premières affaires l'été dernier. Il faut le dire, en plein mois d'août, l'actualité est un peu creuse. Ce que l'on pense être une série d'attaques de chevaux fait alors la une. Et dans le même temps, les gendarmes alertent sur le phénomène. L'angoisse gagne les rangs des propriétaires équins qui, au moindre doute, procèdent à un signalement. Autrement dit, plus on en parle, plus il y en a, et ainsi de suite. Les gendarmes ont décidé de calmer le jeu sur la communication, et depuis, pas plus de chevaux blessés ou morts au pré que les années précédentes, puisqu'il y en a tous les ans. La France n'est pas le seul pays touché par ce phénomène. À l'étranger, des mystères de ce type n'ont jamais été élucidés. Au Royaume-Uni dans les années 80, en Suisse en 2005, finalement, à part une poignée de cas reliés à l'intervention humaine, les experts ont là aussi conclu que la majorité des blessures ont été causées par des accidents ou des charognards.
C'est un peu l'histoire d'un emballement médiatique.
Exactement.
C'était un excellent bien retour. Mais c'est vrai que je me souviens du Royaume-Uni, on en avait parlé en se disant, il y a eu par le passé, on n'a jamais trouvé de...
Bah, on a bien fait d'inviter Alice.
Ouais, merci beaucoup. Bravo, Alice. C'est un billet retour que je qualifierais d'excellent.
Voilà, si vous êtes validé par Brice, c'est bon. Nouvelle musique.
Ouais.
Nouvel habillage.
19h48. Dans un instant, la troisième info pour briller au dîner.
On défait le monde dans RTL Soir.
Chaque jour, Century 21, réseau d'agences immobilières, vous offre votre taxe foncière. Aujourd'hui, le gagnant est M. Philippe Laurent, qui a joué dans l'agence Century 21, le maire immobilier à Esternay. Et vous aussi, tentez votre chance dans l'une des 915 agences Century 21. Règlements et conditions en agence et sur century21.fr.
On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Après Laurent, après Brice, la troisième de ce soir avec Cyprien.
Et j'ai bien écouté la météo de Claire Delorme tout à l'heure. On nous annonce un gros coup de chaud niveau météo pour ce week-end. Et quand il fait chaud, il faut beaucoup boire. Bon, c'est pas que ça vous allez briller. Mais qui dit boire, dit verre. Et là, vous avez déjà forcément joué à taquer l'âge au fond du verre. Vous savez, le numéro qui est au fond des fameux verres Duralex quand on était à la cantine, tout ça. Et bah, grand mystère, ces numéros. Ce soir, je vais vous révéler à quoi correspondent ces chiffres.
Ah, c'est génial.
Au fond du verre.
Donc on fait des teasers maintenant.
Ouais, ça, c'est bon. Bien. En fait, ça s'appelle de l'écriture. En fait,
avec les pieds, oui,
on écoute. Le chiffre, c'est le numéro du moule de la machine qui a fabriqué le verre. Comme ça, quand il y a un défaut, l'entreprise sait tout de suite sur quelle machine et même sur quel moule il faut intervenir.
Pas mal.
Ah, mais c'est une révélation.
Ouais, et alors, je précise que c'est Céline Landreau qui me l'a envoyé par texto cet après-midi.
Je me disais aussi.
Une historique dont défait le monde, on l'embrasse.
Merci, Céline.
Quand il y a de la qualité, c'est Céline.
Ah, bah, évidemment. C'est pour ça. En tout cas, c'est pas si précis.
Allez, tout explique.
Ouais, elle était bien
racontée.
19h51.
J'ai 7 ans.
Marche ou rêve.
Et ça, on le sait.
Marche ou rêve quand on met en valeur vos projets, vos initiatives.
Avec une aventure écologique ce soir, Laurent.
Moi, je vous présente Rémi, 35 ans. Alors, c'est l'aventurier par excellence, un gagnant de l'émission Wild, cette course de survie sur M6 en 2018. Le Berrichon est au top, question bras et jambes, une traversée en courant de l'Australie, un tour de France à la nage, rien que ça. Donc, je culpabilise comme Brice de ne pas être encore retourné à la salle de sport. Et depuis mardi,
non, moi, ça va très bien.
Depuis mardi, nouveau défi, descendre la Loire pendant 12 jours sur un radeau dans le but de ramasser les déchets, sensibiliser la population à la pollution de nos fleuves et rivières. Rémi est en ligne avec nous. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Laurent, bonsoir l'équipe.
Bonsoir. Alors vous êtes parti de la Nièvre, de Saint-Ouen-sur-Loire avec Valentin le vidéaste, Adrien le photographe, direction Orléans sur votre radeau. Qu'est-ce qui vous incite à vous lancer?
On voulait tout simplement faire une nouvelle aventure, mais forcément le confinement était là et comme j'ai l'habitude de partir à l'étranger pour mes aventures, expéditions, on était un peu coincés et je voulais valoriser le patrimoine français et on a la Loire qui est le plus long fleuve de France, qui en plus a un patrimoine magnifique avec des châteaux et des vignobles. Et donc on trouvait l'idée plutôt intéressante de le faire au fil de l'eau à la rencontre des gens. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Patrice Claude, qui est le fondateur d'une application qui s'appelle Trash Potter, qui permet de géolocaliser et de collecter les déchets. Et du coup, on a allié le projet de la Loire en radeau avec cette application.
Et vous êtes sur un radeau que vous avez entièrement...
Oui, alors comment il est le radeau ? Parce que là, vous êtes sur le radeau en ce moment-là.
Non, là, je suis sur une jetée en béton armé. D'accord. On s'est arrêté à Saint-Satur, juste à côté de Sancerre. Et donc le radeau a été construit en deux jours chez mon père avec deux rangées de quatre bidons de 220 litres en plastique bleu avec une structure dessus montée sur trois morceaux pour qu'elle puisse être démontable facilement et transportable par remorque. Et donc bon, on a un peu souffert, on a l'impression que ça fait 4 mois qu'on est parti alors que ça fait que 4 jours. Même les maquis sont dessus, j'ai l'impression d'avoir souffert un peu, mais ça va, on gère et on s'amuse beaucoup et on est plutôt content de rencontrer une population qui est très très chauvin sur la Loire et qui adore raconter leur culture et puis montrer un petit peu leur patrimoine. Et ça fait très plaisir de voir plein de sourires et des gens qui viennent nous applaudir au bord de l'eau. Enfin, on voit pas tous les jours des pirates habillés très bizarrement sur un radeau, donc c'est cool en tout cas.
Dites-nous depuis le départ, qu'est-ce que vous avez ramassé comme genre de déchets ?
Alors, il y a beaucoup de pneus, et puis ensuite bouteilles de plastique, canettes d'aluminium, après des bouteilles en verre. Pas mal de sacs plastiques qui sont enroulés autour des arbres. On est relativement surpris de la qualité des berges. Il n'y a pas tant de déchets que cela, à part bien sûr sur les grandes villes comme Nevers, ou alors je pense quand on va arriver sur Cône-sur-Loire ou Orléans, on a forcément une augmentation de la population, donc de la pollution. Mais c'est relativement propre et c'est quand même très agréable de se dire on a quelque chose d'assez quali sur la Loire.
Et la nuit, vous faites comment ? Parce que dormir sur un radeau du mètre carré, c'est pas l'idéal. Non, vous vous mettez juste à côté.
Non, ça se passe pour vous ? On dort à trois dans un sac de couchage. Alors, c'est un peu chiant parce qu'il faut tous se coller. Mais sinon... on dort à la Belle Étoile directement avec un petit matelas de sol et des sacs de couchage sur les berges. On se fait réveiller par les grenouilles et par les oiseaux. Donc, très agréable avec des beaux couchers, des couchers de soleil, de levées de soleil fantastiques. Et ça me rappelle un petit peu mon aventure sur le Mékong. Très décalé, bien sûr, parce qu'on n'a pas la même faune, la même flore, mais j'ai l'impression de vivre mon aventure sur le Mékong.
Mais ça fait rêver.
Ouais.
Bravo. Bravo. Arrivée prévue le 20 juin à Orléans.
C'est ça.
On prendra de vos nouvelles, Rémi. Bonne aventure. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Évidemment, on mettra ça sur nos réseaux sociaux. Le vainqueur de ce soir.
Attendez, gros vainqueur. Maillot de l'équipe de France dédicacé par le joueur.
Dédicacé.
Plus ballon de l'euro.
Avec lequel on a joué.
Touché par nos soins. Et il est en ligne avec nous. Bonsoir, Jonathan.
Bonsoir.
Vous appelez de Neuilly-sur-Seine, Jonathan ?
Exactement.
Vous allez pouvoir venir récupérer le maillot à pied.
Oui, effectivement, j'y passe.
Bravo, Jonathan, vous avez gagné le maillot.
Merci beaucoup.
Et surtout, vous allez nous faire une économie en timbre.
Ouais. Vous êtes peut-être déjà en bas d'ailleurs, Jonathan.
Je vais être très honnête, j'ai fait plein de jeux concours tout au long de mon adolescence, j'ai jamais rien gagné, c'est exceptionnel.
Génial.
Ah oui, il est beau. Alors, il est devant nous, là, c'est le vrai maillot de cette saison.
Ah
oui.
Hein. Ah ouais. Absolument. Ah bah, c'est une taille M, ça vous ira, taille M ?
C'est du M, ça vous ira, vous croyez ?
Parfait, génial.
Ouais. Vous êtes sûr ?
Génial.
De toute façon, on peut pas changer parce qu'il est dédicacé. Non,
c'est pas toujours le but, mais c'est pas de le porter, hein, pour être tout à fait honnête avec vous.
Ouais, vous avez raison, faut l'encadrer celui-là, parce que si vous le portez, en plus, faut l'encadrer.
Et il a été touché par Stéphane Carpentier.
Ah ouais, là, c'est la classe.
Et il a deux étoiles, il y a toutes les signatures et tout, c'est top.
Et le ballon officiel, il est pas mal aussi, hein. Vous allez pouvoir jouer avec, par contre, celui-là.
Le ballon officiel, c'est RTL et le site balledesport.com qui vous l'offre, Jonathan.
Excellent site, ils font tout sur les balles.
Beaucoup, je suis hyper content.
Ah, c'est génial, ça fait plaisir.
C'est top, ça. Les Bleus vont gagner l'euro ou pas, Jonathan ?
J'espère de tout mon cœur. Là, on a tout pour le faire. On a tout pour le faire.
Bravo !
On est ravis. Content, bravo, ravis. Ouais.
Et puis à tous les déçus qui n'ont pas pu gagner le ballon ce soir, je vous conseille de rester à l'écoute d'RTL Foot dans quelques minutes.
Il est fort.
RTL Foot, Club France à suivre pendant tout l'euro.
Spécial
Euro. Avec les équipes de Christian Olivier, ça va être super. Ils sont au taquet.
Ça va pas chômer. Nous, on revient vendredi prochain, les amis.
Absolument.
Salut.
Bonne soirée, Jonathan. Ciao. Bravo.
Salut. Merci beaucoup.
On défait le monde sur RTL.